Hey, vous venez ? La conférence de rédaction, c'est dans 2 minutes, hein ?
Ouais, on arrive, t'inquiète.
Ah bah, tu tombes bien, tiens, reste là, je reviens du courrier, t'as un colis.
Oh, la chance, moi, j'ai jamais de colis, dis donc.
Ouais, c'est marrant, ça, parce que j'ai rien commandé, moi. À part la bio de Pascal Pro, mais bah, je l'ai fait livrer chez moi et pas ici, parce que, bah, tu vois, je sais pas trop si j'ai envie que ça se sache que... Bon, bah, enfin, tu vois que je le reçois, le...
Ouais, allez, on s'en fout, t'as de la chance, vas-y, ouvre.
Allez, ouvre.
Ok, bon, alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Des factures, 15 000 euros pour un paquet de cacahuètes, 10 000 euros pour un pack de bière ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est même pas mon nom en plus, je vais pas les payer moi !
Ah ouais, il est nul ton colis.
Bah ouais, c'est pas ton nom sur les factures, c'est au nom du président de la République. Ça doit être une erreur, non ?
Pff, ouais, c'est n'importe quoi ce truc-là. Allez hop, à la poubelle. Bon, vous venez à la conf des relacs ? Apparemment, il y a une grosse affaire sur Wikiclic. Wikimix, un truc du genre.
Wikileaks, non ?
Ouais, je sais pas, encore un truc de geek à 2 balles.
Oh, ils veulent pas nous donner des vrais sujets, non ? On est payé pour faire du journalisme d'investigation.
Rétro Buzz, la tendance avec 10 ans de retard.
10 ans ? Mais c'est énorme !
Buzz,
tout ce que tu fais peut avoir de graves répercussions sur le futur.
Buzzword.
Présenté par Pierre-Adrien, Roman et François-Xavier.
Buzzword.
Retour sur un mot qui a marqué l'actualité et les tendances il y a 10 ans.
Maintenant, il est bloqué dans le passé.
Qu'est-il devenu ?
Existe-t-il toujours ?
Réponse tout de suite dans Rétro-Buzz.
Merci, oui. Merci à tous pour cet accueil mémorable.
Salut à tous et toutes et bienvenue dans Rétro Buzz, l'émission qui suit la tendance avec 10 ans de retard. Comme vous le savez désormais, Rétro Buzz est une émission mensuelle et on est avec vous, sur Prune, tous les 3e jeudi de chaque mois de 13h à 14h. Nous sommes toujours dans des conditions très spéciales puisque, confinement oblige, nous enregistrons cette émission en utilisant Discord et en étant chacun et chacune dans notre habitation respective. Magie des temps modernes. Je m'appelle donc FX, j'ai revêtu mon plus beau pyjama et j'ai la lourde tâche de tenter d'animer cette émission comme je peux, accompagné de mes 2 acolytes de toujours. Elle a préparé cette émission comme une déglingo, fouillant les entrailles d'Internet pour dénicher les meilleures informations autour du sujet et les morceaux les plus adéquats pour la programmation musicale du jour. C'est Roman. Comment vas-tu, Roman ?
Salut, ça va très bien et toi ?
Ben ça va très bien, merci. Il est top niveau sur les buzz d'il y a 10 ans. D'ailleurs, on le soupçonne d'être lui-même un buzz, tellement son style particulier secoue le monde à chaque seconde. C'est Pierre-Adrien. Comment vas-tu, Pierre-Adrien ?
Ça va très bien, merci FX, merci beaucoup.
T'es content de ce lancement ?
Oh, je suis super content de ce lancement. Je suis un buzz à moi tout seul.
Ben, je suis très fier. Que serait Rétro-Buzz sans l'œil éclairé d'un invité ? Eh bien, ce serait une émission qui ressemblerait beaucoup à celle du mois dernier. Mais comme on aime se réinventer sans limite, c'est avec une grande joie que je vous annonce que nous serons accompagnés aujourd'hui par le cofondateur du média d'investigation local Médiacité. Bonjour, Benjamin Perel. Comment vas-tu ?
Bonjour, ça va bien. Un peu déçu par le lancement, mais ça va bien.
Ouais, j'ai essayé de faire soft. On ne se connaissait pas encore assez avant de lancer cette émission. Je ferai mieux la prochaine fois.
J'y compte bien.
Bon, avant de commencer, est-ce que tu connais le concept de l'émission, Benjamin ?
Alors, on m'a vaguement expliqué. Donc, il faut revenir avec le type qui fait le buzz maintenant sur ce qui a fait le buzz il y a 10 ans, c'est bien ça ?
Il faut revenir, on va essayer de... Est-ce que quelqu'un peut essayer de mieux expliquer ? Ça commence directement très fort, Benjamin, t'as vu ?
Moi, je veux bien. Alors, c'est un peu l'inverse. T'es pas très loin, Benjamin. C'est, on s'est dit, on part de 2010, donc il y a 10 ans. On prend les mots qui ont buzzé il y a 10 ans et on voit maintenant ce qu'ils sont devenus. Voilà, donc on décortique ça pendant une heure, pourquoi ils ont fait le buzz en 2010, est-ce qu'ils existent toujours maintenant, comment ils s'inscrivent dans l'actualité, etc. Voilà.
Est-ce que c'est plus clair, Benjamin ?
Ouais, c'est ce que j'avais compris, mais mal dit, en fait. Là, c'est beaucoup plus clair.
Merci. On rentre directement dans le vif du sujet en donnant la parole aux Nantais et aux Nantaises, comme toujours. On a demandé aux gens de nous donner leurs sentiments sur le mot du jour. Et c'est quoi le mot du jour ? C'est quoi ? C'est...
Wikileaks.
Allez, c'est parti. Puis j'ai même un petit jingle, tiens, pour l'occasion.
Rétro Buzz ! Quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est ?
Et oui, une nouvelle fois, nous sommes retournés dans la rue à la rencontre, donc, comme tu l'as dit, FX, des Nantaises et des Nantais pour savoir s'ils connaissaient et s'ils connaissent Wikileaks. Et une fois n'est pas coutume, on n'a pas trouvé que des bonnes réponses. Voilà, c'est le jeu des micro-trottoirs. Allez, on écoute une première série de témoignages.
Wikileaks, rien du tout.
Ah, Wikileaks, oui. Non, rien du tout. C'est la première fois que j'entends ça. J'ai connu Wikileaks, mais Wikileaks, non.
Wiki comme Wikipédia, Wikipédia, mais...
Non, je vois pas.
Oh, ça me fait penser...
J'ai entendu, oui.
Wikileaks, j'ai entendu, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne pourrais pas vous dire.
Voilà. Ça vous a fait rire. J'ai perçu un petit rire dans le Lucky Luke.
Dans Lucky Luke, c'était pas mal, ouais.
C'était pas mal, effectivement. Donc, on a deux personnes qui n'ont pas, voilà, qui ont aucune idée un peu de ce que c'est, puis deux autres qui sont un peu dans le doute. On sent bien que c'est un mot qui a déjà été entendu, pour certaines notamment. Le lien avec Wikipédia aussi se fait presque naturellement. Voilà, là, j'ai sélectionné une personne, mais c'est revenu plusieurs fois. Et pourtant, nous verrons que ce n'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de lien. Et pour la suite, je vous propose d'écouter une définition plutôt juste, mais avec toujours un petit doute qui reste, hein, notamment sur les éléments qui sont plus précis.
Julian Assange, la prison, l'ambassade du Venezuela, non, c'est pas le Venezuela, une ambassade à Londres et la menace d'une extradition.
Ça m'évoque le lanceur d'alerte, la révélation aux médias de documents confidentiels et secrets qui sont de nature pas très morale.
Pour moi, les Wikileaks, je pense tout de suite à un lanceur d'alerte. Alors, qui ? Il me semble que c'est Julian Assange. Pour moi, il y a une affaire de révélation, donc peut-être autour de la CIA ou en tout cas des révélations de documents importants.
Voilà, on s'en rapproche.
juste faire un petit point Venezuela. On n'a pas genre à chaque fois le Venezuela qui revient dans nos micro-trottoirs. Tu vois que vous êtes là déjà il y a 2 mois, c'était ça, et je sais pas pourquoi ça revient tout le temps le Venezuela. Voilà.
C'est vrai, j'avais pas relevé.
Pour te remettre dans le contexte, Benjamin, le Venezuela est en Afrique à cause de la Vuvuzela. Voilà.
Voilà, depuis la première émission. Voilà.
D'accord. Ok. C'est intéressant.
Et puis du coup, c'est l'ambassade du Venezuela de Julian Assange, quoi. Presque. Donc voilà, malgré le doute, l'hésitation, moi je trouve qu'on touche plutôt au but, hein. Il y a des noms qui sont sortis, Julian Assange, l'ambassade qui n'est pas la bonne, presque Tiffen, mais c'est pas encore ça, le lanceur d'alerte aussi, c'est revenu tout de suite. Voilà, allez, une dernière série avec deux définitions cette fois-ci plus précises et qui complètent un petit peu tout ce qu'on vient d'entendre.
Un site internet où il y a des choses qui sont dénoncés, je crois. C'est quelque chose comme ça.
Des fuites d'informations confidentielles. À Assange, à Snowden, et voilà, Wikileaks.
Ben voilà, on est pas mal. Bravo, effectivement. Moi, je trouve que la définition, ça y est, elle est un petit peu plus complète. On a la mention du site internet. Voilà, il y a un monsieur qui a dit site internet. Enfin, il y a aussi la seconde personne qui a dit fuite de documents. Donc, ce que je trouve intéressant, du coup, le leak, on le retrouve un peu en français. Voilà. Donc, finalement, je trouve que c'est pas plus mal. Enfin, c'est pas trop mal. Il y a quand même pas mal de bonnes idées autour de ce que c'est WikiLeaks. Si on regroupe, tous les témoignages. Et puis, ça permet de lancer ma chronique qui suit, voilà, pour compléter un peu tout ça. Donc, je trouve ça cool.
Ça voudrait dire, par exemple, que tu aurais préparé quelque chose pour nous expliquer ce que serait Wikileaks éventuellement pour cette émission ?
Ah bah ouais, parce que je fais bien mon travail.
Oh, voilà. Donc, alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Wikileaks ?
Eh oui, tout à fait. Alors, on est parti pour l'explication factuelle. Je vais m'appliquer, promis. D'être clair et synthétique. Alors, Wikileaks, c'est une organisation non gouvernementale fondée notamment par Julian Assange en 2006. Le nombre de personnes à l'origine de ce projet reste flou. Cependant, Julian Assange, cofondateur et responsable du site web, se place en porte-parole de l'organisation en 2007 et demeure encore aujourd'hui la principale figure de Wikileaks. Alors, très clairement, l'objectif du site web publier des documents pour partie confidentielle ainsi que des analyses politiques et sociales à l'échelle mondiale. Aucun rapport donc ni affiliation avec Wikipédia, voilà, pour que ça soit bien clair. Donc en 2007, soit seulement un an après la création du site, environ 1,2 million de documents avaient été ajoutés à la base de données Wikileaks, grâce à une communauté d'internautes originaires de Chine, d'Iran, mais aussi des mathématiciens et des technologues d'entreprises Internet des États-Unis, de Taïwan, d'Europe, d'Australie et d'Afrique du Sud. Enfin, de nombreux internautes anonymes ont également contribué à cette base de données. Si on parle un peu plus de son fonctionnement, le site divulgue donc de manière anonyme, non identifiable et sécurisée des documents témoignant une réalité sociale et politique, voire militaire, qui serait cachée, afin d'assurer une transparence planétaire. Les documents sont ainsi soumis pour analyse, commentaires et enrichissement. Si on se rend sur le site Wikileaks, dans la partie What is Wikileaks, une citation de Julian Assange résume plutôt bien le projet initial du site. C'est une phrase qu'il a prononcée dans une interview pour le journal allemand Der Spiegel en juillet 2015. Je cite, donc avec la traduction française, « Wikileaks est une bibliothèque géante des documents les plus persécutés au monde. Nous donnons asile à ces documents, nous les analysons, nous les promouvons et nous en obtenons plus. » Voilà l'explication purement factuelle de Wikileaks. J'espère que c'était clair et surtout que les bases sont maintenant posées pour pouvoir évoquer plus en profondeur ce sujet et ce buzzword assez complexe.
Bah merci, Roman. Je m'adresse à notre expert du jour. Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est pas clair, tout ça, Benjamin ?
Ah non, c'est super clair. Moi, je relevais qu'il y avait deux mots là qui figuraient pas dans le, ouais, le petit micro-trottoir. Même trois, quoi. Cap diplomatique, Irak et Afghanistan. En 2010, c'est quand même là-dessus que part le buzz. Et ça, on se souvient effectivement des lanceurs d'enquête, on se souvient de Julian Assange, on se souvient à la limite de documents confidentiels. Mais par contre, sur quoi porter ces documents, ça apparemment tout le monde semble avoir oublié. Ce qui montre justement la limite peut-être de Wikileaks, mais j'imagine qu'on en reparlera plus tard.
On en reparlera tout à l'heure, oui, effectivement. Mais c'est vrai que c'est associé tout de suite à Julian Assange, bien plus qu'au contenu des révélations. Ouais.
On enchaîne avec la première pause musicale de cette émission. On va écouter un titre de Dan Bull, un rappeur et vidéaste britannique qui s'est notamment fait connaître à travers sa chanson Dear Lily, qui s'attaquait à Lily Allen et son combat contre le piratage. Mais là, c'est pour une autre chose que Dan Bull s'est engagé sur le titre qui vient. En effet, en 2012, Wikileaks devient producteur de disques, puisque la plateforme sort Beat the Blockade, une compilation destinée à obtenir des fonds suite à la décision de plusieurs entreprises américaines comme Bank of America, Visa, Mastercard, Western Union et PayPal, de ne pas laisser les gens leur donner de l'argent. On écoute donc le titre Wikileaks and the Need for Free Speech de Dan Bull. It's been said that the first casualty of war is truth. And I'm inclined to agree. Listen, we live in an age of instant information. So isn't it strange that things have been hidden away from us? Governments think we need to gain their trust, but it's the other way around. Just take a look. Nothing tells us more than raw data does. So it's important, it's all available to us. Plus, put up for debate and looked at by the public's gaze. Because there's a lot more to be gained from taking off the ball and the chain and the blinkers that have been causing us pain in more than one way. Power to the people, we've fallen away from it. There's a formal name for this, it's called a dictatorship. And censorship's not restoring our faith for shit. So let's rip away the red tape and paper clips. It's a shame that it's come to this for freedom of speech. That we need a safe haven for people that leak. But you see, we speak what we seek, and we deceive what we speak, and that's the truth that's keeping us free. The truth will set you free. The truth will set you free. The issue's prickly when it comes to WikiLeaks. Different people see it differently and disagree. Does it pillory the bigotry of ministries of tyranny, or is it merely hindering the coalition's victory? It's a mystery to me, but look at history. You'll see that liberty is eager to face up to inquiry. We learnt a heap from Bradley Manning, didn't we? We saw conspiracy hidden beneath the sheet
state of anonymity. This military intelligence is giving me the evidence. We really need to step up and declare that we're fed up of it. Why should we trust you when everything that does come through shows we shouldn't trust you as far as we could chuck you? Try to silence something, it'll become amplified, magnified by wires, waves and satellite. We won't be pacified by the fact it's classified. You need a mandate from the people to be ratified. So on their behalf I shall provide this battle cry to tell the powers that be that we're clearly unsatisfied. And if you ignore my reasonable plea, that's just fine by me. Cause all the media's seen the cause and reason for leaks. It's more than freedom of speech, it's also people's belief that we all need to be brief. In order to keep all the peace, we ought to police the police. And that takes much more than just a formal PR release. So all in all, you see, we speak what we seek, and we just see what we speak. It's the truth that's keeping us free. The truth will set you free. Should we listen to the whistleblowers? Of course. Even if it'll throw us? Of course. Of course. Cause if you need to suppress the truth, then I expect that you've got some regretful news. But it's best that you confess, and soon, before we end up less than destitute. Civilian deaths and executions are routine, while billions are spent on weapon producing. Do you think you can reduce the terror threat by inflicting terror on an infant that's never witnessed terror yet? Look, if Americans had taken my parents away, I'd never forget my vendetta till I'd settled the debt. It'd take more than an open letter to let you know that what we see is obviously not democracy, it's puppetry. This jungle's burning and we can't see the wood for trees. Sky's keeping us dry, so we need someone to leak. Because you see, we speak what we seek, and we just see what we speak. It's the truth that's keeping us free. The truth will set you 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 free. Thanks to WikiLeaks, one of the most important websites ever. Thanks to everyone who's put their personal safety on the line in order to expose something that they feel needs to be known. The truth will set you free.
On écoute quoi là? Rétro-buzz!
Vous êtes bien sur Prune 92 FM dans l'émission Rétro-buzz. On vous parle ce mois-ci de WikiLeaks et de son buzz en 2010. PA d'ailleurs, maintenant qu'on sait ce qu'est WikiLeaks, est-ce que tu pourrais nous faire un point sur les raisons de son buzz il y a 10 ans ?
Mais oui, oui, oui. Alors je vais essayer aussi d'être concis, efficace et aussi brillant que Roman tout à l'heure, car il y a pas mal de choses à dire évidemment. Alors, petite remise en contexte, en 2010, ça fait déjà 4 ans que WikiLeaks révèle des fuites d'informations. On a par exemple des assassinats de membres de gouvernement en Somalie, des détournements de fonds au Kenya, du blanchiment d'argent via les îles Caïmans. Un classique. Donc on a déjà un niveau de révélation assez élevé, mais qui n'a absolument pas l'impact médiatique de ce qui va arriver en 2010. En 2010, tout change pour WikiLeaks, avec une série de révélations qui vont propulser l'organisation au premier plan médiatique à un niveau international.
Mais alors, ce que le monde se demande actuellement, c'est oui. Quelles étaient ces révélations en 2010 ?
Alors la première, c'est un scandale sans précédent, c'est ce qu'on va appeler le collateral murder. C'est le 5 avril 2010, si je dis pas de bêtises, ouais, WikiLeaks divulgue les images d'un raid aérien survenu le 12 juillet 2007 à Bagdad, en pleine guerre d'Irak, au cours duquel un hélicoptère Apache de l'armée américaine ouvre le feu au fusil mitrailleur sur un groupe de civils. Au moins 18 morts sont à déplorer, dont deux journalistes de l'agence Reuters. Cette vidéo, elle est issue en fait des caméras embarquées des hélicoptères qui sont à la manœuvre. Après, donc voilà, déjà ça c'est la première grosse révélation qui effectivement est assez célèbre. Et après, tout au long de 2010, on va assister à pas mal de révélations qui vont se succéder en provenance de WikiLeaks. En juillet, ce sont les War Logs, 91 000 documents militaires américains secret défense sur la guerre en Afghanistan. En octobre, WikiLeaks procède à la mise en ligne de 392 000 documents secrets, cette fois-ci sur la guerre en Irak, sur une période qui est de 2004 à 2009, qui permet notamment d'estimer le nombre de morts sur cette période. Alors on a des chiffres, je ne suis pas bien évidemment sûr de ces chiffres, mais plus de 110 000 personnes qui auraient péri sur cette période-là, dont une moitié de civils. Bien sûr, des chiffres à prendre avec des pincettes. Mais ce qui va être le plus impactant pour WikiLeaks, c'est ce qui va arriver à partir de novembre. WikiLeaks divulgue 250 000 câbles diplomatiques, des mémos confidentiels envoyés au département d'État, qui est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères aux États-Unis. Et cette masse d'informations, elle apparaît un peu comme un instantané, une photographie de la diplomatie américaine à l'époque. Elle révèle notamment la manière dont les États-Unis perçoivent tel ou tel chef d'État, telle ou telle situation géopolitique. Et ça, ça crée un tollé énorme. La plupart des chefs d'État s'indignent. L'OTAN fustige, je cite, l'irresponsabilité de WikiLeaks. La Maison-Blanche traite les responsables de WikiLeaks de criminels, avec en tête Hillary Clinton, qui à l'époque est secrétaire d'État de Barack Obama, qui déclare que cet acte constitue une attaque contre la communauté internationale. Bref, la guerre est ouverte entre les États-Unis et WikiLeaks. À noter aussi que l'impact des révélations de WikiLeaks est d'autant plus énorme que l'organisation décide de collaborer avec des médias de renom pour éditorialiser ces révélations, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on avait par exemple le New York Times aux États-Unis, le Guardian au Royaume-Uni, Der Spiegel en Allemagne, Le Monde en France et puis El País en Espagne, qui ont directement collaboré et publié les informations sur les câbles diplomatiques, ce qui a permis de donner du corps aux mémos diplomatiques. Sinon, on aurait une masse de fichiers, finalement, beaucoup de fichiers, beaucoup de données en ligne. Mais ça a permis un petit peu de donner du corps à toute cette masse de données. Ça, c'est une vraie révolution dans la culture journalistique, avec une profession qui s'ouvre de plus en plus à partir de 2010 sur le monde des hackers, sur le monde des data. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Benjamin, et en témoigne l'apparition de grosses affaires hors WikiLeaks cette fois-ci, dans les années 2010, telles que les Panama Papers, SwissLeaks ou encore FootballLeaks, pour ne citer qu'elles.
D'accord, mais alors ça se passe comment pour WikiLeaks après cet épisode de 2010 ?
Bah, tu t'en doutes bien, ça se passe pas très très bien. C'est le début des problèmes pour WikiLeaks. Dès 2010, d'ailleurs, on essaye par tous les moyens d'empêcher le site de vivre, avec notamment un blocus financier qui arrive dès la fin d'année 2010, orchestré par Visa, Mastercard, Bank of America, PayPal ou encore Western Union. En fait, WikiLeaks va perdre la quasi-totalité de ses sources de financement et va se réfugier dans la crypto-monnaie pour pouvoir continuer son activité. L'hébergement et l'accès du site, donc l'accès à l'information, devient aussi un enjeu de taille. En décembre, Apple, par exemple, décide de retirer de l'App Store une application qui permettait de se connecter directement aux informations de WikiLeaks. Et puis, toujours fin 2010, Reporters sans frontières héberge à un moment donné un site miroir de WikiLeaks pour pouvoir accéder aux informations et notamment aux câbles diplomatiques qui ont été révélés à partir de novembre. Et puis, il y a le porte-parole de WikiLeaks, donc Julian Assange, on en parlait tout à l'heure. Et puis on y reviendra, je pense, aussi dans le cadre de notre revue de presse. Il est toujours, lui, accusé d'espionnage par les États-Unis. Il s'est réfugié pendant 7 ans à l'ambassade du Pérou, et pas du Venezuela, au Royaume-Uni, et est actuellement encore en prison du côté de Londres, je crois.
Alors du coup, si Julian Assange est emprisonné, est-ce que les révélations sont finies du côté de WikiLeaks ?
Non. Non, non. Tout cela n'empêche pas WikiLeaks de continuer de divulguer ces informations jusqu'à aujourd'hui. Alors, pas avec des affaires qui ont forcément un impact aussi énorme que ce qui est arrivé en 2010. On peut en citer trois. 2011, la publication de dossiers détaillés, tous les dossiers détaillés de plus de 700 détenus du camp de Guantanamo, des détenus qui vont de 14 à 89 ans, et où l'on découvre notamment la détention de 150, je crois, détenus afghans qui auraient été innocents. 2015, WikiLeaks annonce que 3 présidents français, Chirac, Sarkozy et Hollande, ont été écoutés par la NSA. Ça a fait un peu plus de bruit par chez nous. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et puis 2016, enfin, plus proche de nous, WikiLeaks a un rôle un peu trouble à l'approche des élections américaines. Et on l'accuse même de que WikiLeaks fasse campagne pour Trump en divulguant une quantité de mails de l'ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton, ce qui va jouer clairement en défaveur de la candidate. Alors pour rappel, Clinton, hein, je le disais tout à l'heure, c'était la secrétaire d'État d'Obama au moment de l'affaire des câbles diplomatiques. Voilà. Donc, est-ce que c'est une revanche ou quoi ? On n'ira pas jusque-là. Mais voilà quelques affaires qui montrent que WikiLeaks reste encore actif depuis 2010.
The helicopter gunship crew thought they were all just actors. There's video of men and children used for target practice. WikiLeaks released it. It's not rumor now, it's fact. It's evidence of cowboys shooting up the town. And your dirty little secret ain't a secret anymore. We know what you're doing in your dirty little war. It's the same thing you've been doing time and time and time before. Your dirty little secret ain't a secret anymore. It's hard to keep a secret in the age of information. You push one little button and it's on every TV station. Anyone with eyes can see the situation now, 'cause Julian Assange is around. And your dirty little secret ain't a secret anymore. We know what you're doing in your dirty little war. It's the same thing you've been doing time and time and time before. Your dirty little secret ain't a secret anymore. Once upon a time, you know, when I was in my youth, the US Army war machine would cover up the truth. But they can't do that anymore, 'cause now we've got the proof of the way they like to throw their weight around. Remember that old saying, don't shoot the messenger? Well, Julian Assange is a messenger, not a traitor. He held up a mirror to the people of the USA to show them what is really going down. And your dirty little secret ain't a secret anymore. We know what you're doing in your dirty little war. It's the same thing you've been doing time and time and time before. Your dirty little secret ain't a secret anymore. Your dirty little secret.
Je suis Buzz l'éclair, je viens en paix.
Vous êtes bien sur Prune 92 FM dans l'émission Rétro Buzz, l'émission qui suit la tendance avec 10 ans de retard. On vient d'écouter le titre WikiLeaks du chanteur australien Dennis Aubrey, sorti en 2012 suite à une manifestation de soutien à Julian Assange à Sydney. Est-ce qu'on aime bien ici? Est-ce qu'on a écouté le titre ou est-ce qu'on était ailleurs,
hein? Moi je l'ai écouté. En préparant l'émission, j'aime beaucoup. C'est très gay. Ça donne envie de danser et en même temps, c'est plutôt juste, je trouve.
Une petite chanson. Alors, je crois que on la trouve sur Union Song, donc les chansons de syndicalistes. Plutôt intéressant. Allez, on revient au présent. On s'est demandé si les gens avaient un avis sur un des éléments essentiels à une organisation comme WikiLeaks. C'est bien ça, Romane?
Tout à fait, et fixe. On a demandé aux gens, donc toujours les mêmes, hein, des personnes, des Nantaises, des Nantais, et métropole. On a demandé donc s'ils savaient ce que c'était un lanceur d'alerte ou une lanceuse d'alerte, élément important, c'est un peu la base, la source des WikiLeaks et des fuites de documents en général. La notion de lanceur d'alerte est d'ailleurs plutôt bien connue des personnes interviewées. Voilà, je vous spoil un peu, mais... on va commencer tout de suite par une première série.
C'est quelqu'un dans le jeu, je sais pas. Une lanceuse d'alerte, une personne. Une personne qui préviendrait de dangers, de problèmes.
Une lanceuse d'alerte, ça sert à prévenir quand il y a un danger. Voilà, pour moi, c'est ça, quoi. Ça définit ça, quoi. Quand on lance une alerte, c'est qu'il y a danger. Ben, je pense que c'est bien. C'est bien pour prévenir les gens.
C'est encore un terme un peu qui a une connotation avec Internet. Ouais, c'est des gens qui donnent des alertes sur des choses qui peuvent être importantes, je pense. Ça peut être bien comme pas bien, je pense, parce que ça dépend comment c'est fait. Il peut y avoir des alertes qui soient un peu des fakes ou des choses un peu qui soient pas vraies.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On est dans le juste ou bof?
Benjamin, je ne sais pas si tu as un avis.
Si, ouais, non, on est plutôt pas mal, j'ai trouvé. Ça embrassait bien le champ de ce que sont les lanceurs d'alerte. Je suis d'ailleurs assez surpris que le mot fasse tilt aussi facilement que ça.
Le terme de danger, moi, c'est assez intéressant de dire. Alors, le lanceur d'alerte, c'est quand il y a un danger. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est quand il y a un danger?
C'est quand il y a un... Ouais, effectivement, je suis assez d'accord avec ça. C'est quand il y a un danger, ou en tout cas, qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner.
Oui, tout à fait, le terme de danger, il est revenu notamment dans ceux que j'ai sélectionnés ici. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est l'avis du monsieur à la fin qui touche un peu aux limites. Selon lui, il parle de fake news directement. Voilà, de fausses informations qui seraient données par ces lanceurs d'alerte, donc je trouve ça intéressant. Et puis voilà, il pose le doute en fait, et on retrouvera ça juste après dans les autres témoignages. Mais en attendant, je vous propose de continuer avec trois définitions qui sont plutôt précises.
Un lanceur ou une lanceuse d'alerte, c'est une personne qui prend le risque de diffuser une information dite confidentielle pour alerter sur un sujet qui peut prêter à une instruction en justice, par exemple.
Ben, c'est quelqu'un qui prévient des choses qui se passent. C'est important d'en avoir parce qu'il y a pas mal de choses qui nous sont cachées. Donc, ouais, c'est important. C'est les personnes qui nous avertissent des choses qu'on ne nous dit pas.
Pour moi, c'est un mec qui se met dans la merde en révélant des informations, enfin qui se met en danger en révélant des informations sensibles, que certainement un contrat ou son poste ne lui permet pas de révéler. Et je pense à Snowden, Manning, Assange.
Alors là, on a pas mal d'infos. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça devient plus précis. On a des mots qui reviennent, toujours le mot danger, mais il y a un peu les révélations, informations confidentielles, prise de risque, une nouvelle fois Assange. Il y a le notion de contrat aussi. Donc je trouve qu'on comprend mieux, en tout cas, qu'une personne lanceuse d'alerte, ce n'est pas juste, entre guillemets, une simple journaliste ou un simple journaliste qui divulguerait des informations, mais c'est plutôt une personne qui a accès à des données dont le grand public n'a pas accès et qui ne sont pas censées être révélées, en tout cas qui n'ont pas vocation ou volonté à être révélées. Et elle est toujours avec cette notion de risque et d'anonymat aussi. Voilà, donc je trouve que c'est... Ouais.
Moi, je trouve qu'il y a un truc assez intéressant sur le premier témoignage, c'est les pincettes prises. Je ne sais pas si notre invité a quelque chose à dire à propos de la perception du lanceur d'alerte et de ses pincettes. Il y a toujours une méfiance, on dirait, de ça, ouais, c'est quelqu'un quand même, on ne sait pas trop s'il veut nous manipuler ou pas, quelque chose comme ça.
Ouais, si, effectivement, mais c'est aussi une question qu'on se pose en tant que journaliste quand on a affaire à un lanceur d'alerte ou à un témoin. Hein, c'est toujours aussi une question à se poser, d'où il parle, pourquoi est-ce qu'il vient nous révéler ça, qu'est-ce qu'il a à gagner, entre guillemets, ou est-ce qu'il a quelque chose à gagner. Donc, cette notion de pincette, je la trouve intéressante parce qu'on ne prend pas l'info comme ça, en brut, pour ce qu'elle est, et parce qu'elle est donnée par quelqu'un qui se dit lanceur d'alerte, elle est forcément vraie. Donc, c'est intéressant. Après, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est la notion de risque et de danger qui est pris par les lanceurs d'alerte. Ça a l'air d'être bien compris, quoi, qu'il y a véritablement un risque qui est pris par ces gens. C'est intéressant.
Bah, du coup, ouais, Benjamin, ça tombe bien, tu fais une bonne transition avec mon dernier micro-trottoir, c'est la notion de pincette, de doute. C'est quelque chose qu'on a retrouvé dans un témoignage de couplet. Voilà, c'est le cas de le dire, je vous laisse écouter.
Alors là, franchement, je vois pas du tout. Quelqu'un qui donne de l'information, qui met en garde, voilà. Après, je pense que c'est d'une manière générale. Moi, je prends toujours un petit peu une position, on va dire, au niveau de la posture, un peu de recul. Hein, et puis, je préfère analyser, avoir ma propre analyse, hein, et voilà, me faire ma propre opinion, avant de me dire que c'est une alerte.
un petit peu comme mon épouse, bah oui, c'est un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui met l'opinion publique, ses citoyens au courant de faits, de pratiques dont il a connaissance. Je parlais de Schloden par exemple, en fait c'est un lanceur d'alerte. Mais comme mon épouse, je reste prudent parce que quelquefois ça peut s'apparenter à de la manipulation, aussi, surtout actuellement avec certains réseaux sociaux.
Voilà, je trouve que, en fait, ça correspond assez à ce dont on parlait juste avant, d'une espèce de côté sceptique qui peut se comprendre et qui d'ailleurs est nécessaire. En fait, c'est un espèce de regard critique que j'ai voulu intégrer dans ces micro-trottoirs et qui s'est retrouvé dans ce couple. Et voilà, que je trouve intéressant et qui permet bah, de douter aussi, pourquoi pas, effectivement, de la fiabilité des lanceurs d'alerte et des lanceuses d'alerte, tout en comprenant quels sont les enjeux aussi derrière cette pratique des citoyens, de différents lanceurs d'alerte. Et puis, ça sera tout pour moi. Je crois qu'on a désormais une bonne idée de ce que sont les lanceuses et lanceurs d'alerte. Merci à nos témoins du mois.
Ben merci Romane. On va revenir sur le sujet de notre émission. On s'est tourné vers les médias du coup pour voir ce qu'on trouvait à propos de Wikileaks au niveau de l'actualité de 2020. Alors c'est parti pour Wikileaks en 2020.
Ah ben y a tellement de choses dans la presse de nos jours. On sait plus où donner de la tête.
Revue de presse, rétro presse, rétro buzz.
Vite et violent ce jingle. Je vais démarrer, moi, avec un article. Alors forcément, en fait, comme ça fait 10 ans qu'on a eu des révélations, il y a pas mal d'articles en ce moment en mode un peu bilan, 10 ans après, un peu comme nous, finalement. Il y en a un qui m'a intéressé, c'est un article de The Conversation qui est intitulé « Qu'ont changé les révélations de Wikileaks ?» Oui, alors excusez-moi, je me suis trompé, c'est pas du tout ça le titre. C'est Retour sur l'affaire Wikileaks, qu'ont changé les révélations de 2010. Et c'est un article paru le 3 mars 2020, avec deux constats qui sont formulés par Fabrice Rousselot, décidément, excusez-moi, directeur de la rédaction. Le premier constat, c'est que les affaires n'ont pas suscité une indignation si importante, et encore moins une action de grande ampleur de la part de la société civile, notamment aux États-Unis. On l'évoquait tout à l'heure avec Benjamin, on connaît plus la figure de Julian Assange que finalement le contenu des révélations. Et pourtant, c'était l'espoir des membres de Wikileaks que de pouvoir créer une dynamique autour de ces révélations. Et finalement, on s'aperçoit que c'est pas forcément ça. Alors, je cite l'article. « Loin d'être révolté par les révélations, une partie des Américains ont au contraire émis des critiques à l'égard de la démarche de Wikileaks, l'organisation étant accusée d'aggraver l'instabilité et de mettre en danger des vies humaines sur le terrain. » Second constat que fait cet article, c'est le pari de la transparence radicale de l'information, qui était celui de Wikileaks, qui aurait pu faire évoluer les États sur le sujet, sur leur manière de communiquer, sur leur manière de mettre à disposition des informations. Et là encore, le bilan est extrêmement mitigé. Je cite, l'affaire Wikileaks correspond plus à une séquence historique durant laquelle l'équilibre entre transparence et secret a été momentanément modifié, mais les États, en adoptant presque instinctivement des parades essentiellement techniques, ont très rapidement retrouvé leur opacité. Voilà un petit peu pour cet article.
Très bien.
Intéressant.
Mmh. Roman, est-ce que tu as un article, toi ?
Oui. Oui, j'ai un article. Oui, parce que encore une fois, je travaille bien. Donc, j'ai un article qui date lui aussi de 2020, voilà, c'est le thème. Et donc, en 2020, la presse française évoque Wikileaks particulièrement à travers son fondateur, Julian Assange. La rubrique Pixel du journal Le Monde, rubrique qui traite du numérique, propose un article traitant des conditions de détention d'Assange, un article publié en ligne le 26 juin dernier. Pour rappel, le fondateur de Wikileaks est emprisonné à Londres depuis 2019, date à laquelle il a été interpellé à l'ambassade équatorienne. 8 ans plus tôt, soit en 2012, il était visé par une procédure d'extradition vers les États-Unis. Il s'était alors réfugié dans l'ambassade d'Équateur et avait demandé l'asile politique à ce pays. Il est resté cloîtré à l'intérieur de l'ambassade pendant 7 ans. Autre élément à savoir, son incarcération a également permis à la Suède d'intenter un nouveau procès contre lui, cette fois-ci à la suite d'accusations de viol et d'agression sexuelle datant de 2010. Voilà, une fois ces rappels faits, petit retour à notre article de 2020 où l'on apprend donc que 216 médecins de 33 pays différents dénoncent la, je cite, « torture » dont est victime Assange, une dénonciation publiée dans la célèbre revue médicale The Lancet. Dans cette lettre signée par les médecins, pas de précision de son état de santé car il n'y a pas eu d'auscultation. Une dénonciation donc qui ressemble plus à un éditorial, nous raconte Le Monde, un élément qui ajoute une pierre à la défense d'Assange qui était, au moment de la publication de l'article, incarcéré donc dans la prison de Londres et en attendant la deuxième partie de son procès. L'article précise les dires des médecins dénonçant, je cite, « des violations continues des droits humains et juridiques de M. Assange, aux mains des autorités judiciaires et pénitentiaires au cours de la procédure d'extradition. Des méthodes qui vont à l'encontre du bon fonctionnement de la justice et de la bonne défense de Julian Assange, alors que celui-ci risque l'extradition vers les États-Unis. On rappelle aussi que la date du 4 janvier a d'ailleurs été fixée pour que la justice britannique rende son verdict. Bref, un article court, synthétique, qui rappelle les conditions de détention de Julian Assange à travers les témoignages d'une communauté de médecins. Donc on voit bien qu'en 2020, on parle plus de Julian Assange que de Wikileaks. Eh bien, FX, je te laisse la parole pour ton article.
Si Wikileaks est toujours au cœur de l'actualité en 2020, c'est aussi à travers la possible fin de la saga judiciaire de la lanceuse d'alerte Chelsea Manning, comme le montre cet article de Libération daté du 13 mars 2020. Wikileaks, un juge américain, ordonne la libération de Chelsea Manning. Qu'apprend-on dans cet article ? Eh bien, plusieurs choses. Tout d'abord, que Chelsea Manning, la lanceuse d'alerte à l'origine des leaks de 2010, a vécu un véritable calvaire judiciaire depuis 2010. D'abord condamnée à 35 ans de prison en 2013, elle est graciée par Obama et sort de détention en 2017 après 7 années de prison. Mais en mars 2019, elle est à nouveau incarcérée pour refus de témoigner devant un grand jury contre Julian Assange. « Ils veulent me poser des questions auxquelles j'ai déjà répondu lors de mon procès », avait-elle expliqué, en dénonçant une procédure opaque uniquement destinée, selon elle, à la renvoyer derrière les barreaux. Elle sera à nouveau libérée en mars 2020, sa comparution n'étant plus nécessaire et son maintien en détention ne répondant plus à un objectif de coercition. Le grand jury a d'ailleurs été dissous. Elle devra cependant tout de même payer la somme de 256 000 dollars d'amende qui, elle, n'a pas été annulée. Mais ce n'est pas tout. Dans cet article, on apprend aussi que cette libération intervient au lendemain d'une tentative de suicide de Chelsea Manning, sauvée in extremis par l'intervention des autorités pénitentiaires et un transfert à l'hôpital. Enfin, Libération en profite pour mettre en lumière le parcours de transition vers le sexe féminin de Chelsea Manning effectué lors de sa détention, la qualifiant au passage d'icône des personnes transgenres. On espère que l'acharnement judiciaire prend fin pour elle avec cette libération et que l'Amérique la reconnaîtra enfin comme une héroïne du 21e siècle et non plus comme une personne à enfermer.
On n'a qu'à lui poser des questions, comme ça on saura tout ce qu'on veut savoir sur le sujet. C'est l'interview RétroBuzz !
Benjamin Perel, donc merci d'être avec nous depuis le début de l'émission. Tu es, on l'a dit tout à l'heure, journaliste, ancien de L'Express, cofondateur de Médiacité et rédacteur en chef de Médiacité Nantes. C'est bien ça ?
C'est bien ça.
Ok. Première question, tu faisais quoi et tu étais où en 2010 ?
C'est une question un peu difficile parce que j'ai du mal à me souvenir de ce que je faisais en 2010. Non, si, plus sérieusement, en tout cas, c'est un peu dur de se souvenir de ce qu'on faisait il y a 10 ans. C'est un peu difficile pour soi, quoi. Partir tellement longtemps en arrière. Et tout. Mais en tout cas, en 2010, j'étais à L'Express et je pense que c'est là où j'ai découvert Wikileaks, pas à L'Express, mais en 2010. Parce que tout à l'heure, vous racontiez que Wikileaks datait de 2006 et j'avoue qu'avant 2010, à mon avis, j'en avais jamais entendu parler. Donc c'est vraiment l'année 2010 qui m'a fait prendre conscience de l'existence de Wikileaks et puis du potentiel que pouvaient avoir les leaks, les lanceurs d'alerte et les fuites de documents.
Alors justement, Médiacité se présente comme un média d'investigation local. Vous êtes présent à Nantes, mais dans d'autres villes aussi de France ?
Oui, à Lille, à Lyon et à Toulouse.
Lille, Lyon, Toulouse. Et avec derrière une plateforme qui s'appelle Goleaks et qui permet à des lanceurs d'alerte de transmettre des informations aux journalistes. On parlait tout à l'heure de l'impact de Wikileaks sur la culture journalistique. Est-ce que finalement Médiacité aurait existé sans Wikileaks ?
Oui, Médiacité aurait existé sans Wikileaks parce que pour l'essentiel, Médiacité, avant tout, c'est un site d'information. Donc c'est un site d'information qui pourrait exister sans une plateforme de leaks telle que la nôtre. Donc là-dessus, je peux être assez catégorique. Oui, Mediacité aurait existé sans Wikileaks. D'ailleurs, Mediacité a existé avant d'avoir une plateforme de leaks, puisqu'on a lancé Mediacité en 2016, fin 2016, et que la plateforme de leaks, on l'a lancée plutôt vers le mois d'octobre 2017, quoi. Donc quasiment un an après. Donc là-dessus, oui. Par contre, sur la façon de faire du journalisme, la volonté de faire des enquêtes fouillées, de s'appuyer un maximum sur des documents, etc. Bon, c'est du journalisme classique, c'est la base du journalisme, mais des initiatives telles que Wikileaks, puis derrière toutes les affaires de leaks dont vous avez parlé tout à l'heure, mais qui sont sorties au fil des années, les Luxembourg Leaks en 2014, les Football Leaks en 2015, les Panama Papers un an plus tard, les Malta Files en 2017, enfin tout ça a contribué finalement à donner une autre dimension, je pense, à l'enquête et à des enquêtes appuyées sur des documents obtenu de façon moins classique que d'habitude, on va dire, pour employer un euphémisme.
Alors, on reviendra peut-être sur la plateforme de Leaks juste après, mais le pari de l'investigation que fait Mediacité, voilà, ça a été vraiment, c'est vraiment ça que vous avancez dans votre démarche. Est-ce que ça veut dire que c'est un champ qui est complètement déserté au niveau local par la presse traditionnelle?
Non, moi, j'irai pas jusqu'à dire que c'est complètement déserté. D'ailleurs, j'irai pas du tout jusqu'à dire que c'est déserté, parce que ça dépend des villes. Évidemment, il y a des villes qui sont plus ou moins bien loties en la matière. Mais là, si on parle de Nantes, par exemple, Nantes c'est une ville avec une situation un peu particulière. Déjà, elle a la chance d'avoir deux quotidiens et elle a la chance d'avoir des quotidiens qui font aussi de l'enquête. Je pense que Ouest France l'a montré ces dernières années en enquêtant. Sur la drogue à Nantes, par exemple, à coup d'une trentaine de papiers et de 6 mois d'enquête, c'était assez impressionnant. Donc, on peut pas dire que l'enquête soit abandonnée au niveau local. Il manque de pluralisme. Le problème, c'est le pluralisme. Les deux quotidiens dont je parle appartiennent au même groupe. Donc, on manque de pluralisme dans la presse. On manque parfois d'enquête. À certains endroits, on manque de journalistes qui prennent le temps de l'approfondissement, de la longueur, des enquêtes au long cours, mais c'est pas un désert non plus, faut pas exagérer.
Alors pour bien comprendre, le lanceur d'alerte, il envoie une information via cette plateforme à Mediacité ou à un journaliste, une journaliste en particulier?
Il l'envoie à Mediacité. Chez Mediacité, il y a une personne qui est chargée plus spécifiquement de relever la boîte aux lettres. Pour des questions de sécurité. C'est plus simple qu'il y ait une personne qui ait accès à la plateforme et les codes, etc., plutôt qu'il y en ait, 50. Et donc, cette personne centralise et ensuite dispatche aux journalistes les informations reçues sur la plateforme. Donc, l'idée étant voilà, d'éviter au maximum les intermédiaires. Pardon, je t'ai interrompu.
Oh non, pas de souci, bah merci. Ces dernières années, on a vu l'émergence de comptes Instagram du type Balance ta rédac, Balance ton stage ou Musique tout, qui jouent ce rôle de plateforme de récolte de témoignages pour alerter sur des problématiques de discrimination, voire de violence dans certains milieux. Quel regard, toi, tu portes sur ces plateformes? Est-ce qu'on est dans le lancement d'alerte? Est-ce qu'on est dans la récolte de paroles? Comment tu définirais ça, toi?
Oui, on est dans le lancement d'alerte, on est dans la récolte de paroles, de témoignages. Je pense que ça a évidemment de l'intérêt. Après, c'est très différent de ce qu'a pu être, ou de ce qu'est même toujours Wikileaks, et très différent d'une plateforme de leaks. Dans une plateforme de leaks, on attend surtout des documents. Là, on a du témoignage, donc c'est autre chose. Et puis, il y a une dimension dans la plateforme de leaks. Vous le soulignez tout à l'heure, 2010, ça émerge, Wikileaks, et ça prend une dimension parce que ça passe aussi au filtre de grands médias. Tu citais Le Monde, le New York Times, El País, etc. C'est ces grands médias aussi qui, en appliquant un traitement journalistique, c'est-à-dire en hiérarchisant, en vérifiant, en travaillant, finalement, les informations qui étaient révélées par Wikileaks lui donnent la possibilité d'émerger au niveau public. Avant, tout le travail de mise en ligne de documents qu'avait fait Wikileaks était un peu resté, on va dire, dans l'anonymat. Sans le passage par le prisme journalistique et le travail journalistique, le risque, et c'est ce qui est arrivé à mon sens hein, à Wikileaks, c'est que tout ça reste un peu lettre morte et que les lecteurs se retrouvent face à une quantité énorme de témoignages parmi lesquels ils n'arrivent pas à trier. C'est vrai pour des documents, donc les montagnes de documents que Wikileaks pouvait avoir au départ. Ça peut être vrai aussi pour des comptes Instagram tels que ceux que tu citais, où on se retrouve confronté à une montagne de témoignages, mais sans avoir absolument aucunement la possibilité de savoir si celui-ci est vrai, celui-ci est faux, lequel est important par rapport à un autre, etc. etc. Et on en revient sur ce que disaient d'ailleurs les personnes qui étaient interrogées lors du micro-trottoir. C'est le doute qu'ils avaient et les pincettes qu'ils prenaient face à certains témoignages de lanceurs d'alerte. Est-ce que c'est du lard ou du cochon? On n'en sait rien. Moi, je préfère me faire ma propre idée, etc. Donc, c'est important. Wikileaks, c'est un moment important, effectivement, dans l'histoire de, je pense, du journalisme. Moins pour Wikileaks lui-même, même si c'est une date clé. En tout cas, dans son héritage, que pour ce qu'il a contribué à créer avec, je pense, au consortium international des journalistes d'investigation qui est à l'origine des Luxembourg Leaks, des Panama Papers, etc. Et là, encore une fois, qu'est-ce qu'on a vu? C'est pas des montagnes de documents révélés, c'est une énorme enquête journalistique conjointe par plusieurs rédactions dans plusieurs pays du monde basée sur ces documents. Mais c'est pas simplement les documents bruts comme ça, c'est l'enquête journalistique qui est mise en avant. Je pense que c'est ça qui est important.
Très bien, merci. Juste une dernière question pour terminer. Comment va Médiacité et qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir un média comme Médiacité?
Eh ben, on va plutôt bien. On a fêté notre troisième année et demie à Nantes, 4 à Lille. Et puis pour soutenir Médiacité, ben la meilleure chose à faire, c'est de s'y abonner. Parce que nous, ce qui compte, c'est l'indépendance. On n'a ni pub, ni subvention, ni soutien des collectivités. Et donc, la meilleure chose à faire pour soutenir l'enquête locale, c'est de s'abonner sur www.mediacité.fr.
Merci Benjamin. Merci d'avoir accepté notre invitation. On entame la dernière ligne droite de cette émission et c'est le moment qu'on attend tous et toutes avec impatience, n'est-ce pas FX?
Bah oui, c'est la place à Turbo Buzz.
Il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue.
Turbo Buzz! À fond la caisse, droit dans le mur!
Tu l'avais oublié celle-là?
Vous connaissez le principe de cette rubrique? Non, oui, oui Roman, PA?
Oui.
Oui, on connaît, oui. C'est quoi?
Oui, on connaît bien.
En gros, j'ai choisi un buzz de 2010 que je juge, bon, plutôt moyen. Enfin, moyen, c'est pas pour dire nul. Vous voyez quoi. Bon, je vous fais écouter un extrait et on joue juste après. C'est parti et aujourd'hui, on s'émerveille.
Wow. Wow. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Wow. Oh my, wow. Woo! Yeah! Oh my! Oh my! Oh my God! Look at that!
Woo! Wow! Look at that!
Oh my God!
Bah ouais. Alors, pourquoi on s'émerveille? C'est quoi cet extrait? C'est quoi?
Absolument aucune idée.
C'est Double Rainbow, non?
Mais bien sûr, c'est Double Rainbow. C'est quoi Double Rainbow?
C'est quoi Double Rainbow? Double
Rainbow. C'est une vidéo en fait. Alors je sais absolument plus dans quel pays où en fait c'est un monsieur qui filme, mais en fait il se rend compte qu'il y a un double arc-en-ciel du coup. Et voilà, il y a cette réaction en direct de la vidéo qui est complètement ouf en fait. Du coup, c'est devenu viral parce que il est complètement fasciné quoi.
C'est disproportionné comme réaction.
Bah non, c'est disproportionné, c'est un double rainbow.
Un double rainbow, ouais, quand même. Ouais. Donc,
en fait, c'est le son de la vidéo nommée Yosemite Bear Mountain Double Rainbow qui date du 8 janvier 2010. Elle a été réalisée par Paul Vasquez, donc il est un habitant du parc de Yosemite aux États-Unis et qui s'extasie effectivement devant un double arc-en-ciel, une merveille de la nature. Ça fait rêver, non, d'avoir un double arc-en-ciel?
Beau. Ouais, ouais.
Bah ouais, ça donne envie.
Alors, qui a révélé la vidéo? Est-ce que c'est Lady Gaga, Jimmy Kimmel ou Donald Trump? Jimmy Kimmel. Je ne sais pas comment dire. Lady Gaga, Donald Trump ou Jimmy
Kimmel? Lady Gaga.
Moi, je dirais Lady Gaga aussi, ouais.
Eh bien, c'est perdu. C'est Jimmy Kimmel. je vais dire Jimmy Kimmel, présentateur du Late Show Jimmy Kimmel Live sur ABC, qui le 3 juillet 2010 a publié la vidéo sur Twitter. Et ça a fait exploser les compteurs de la vidéo avec près de 5 millions de vues en moins de 2 semaines. En gros, il a publié la vidéo en disant que son ami Todd lui avait dit que c'était la vidéo la plus drôle du monde et que c'était sans doute vrai. Moi, j'aimerais bien avoir un ami Todd aussi. Vous connaissez un Todd, vous ?
Non.
Non, personne ne connaît Todd.
Enfin, je connais Emmanuel, ouais. Mais non, c'est pas mon pote.
Oh, Emmanuel. troisième question. Selon le site The Ringer, spécialisé dans le sport et la pop culture, à quelle place se trouve le 3 juillet 2010, donc, dans les 10 jours les plus heureux de la décennie sur Internet ? Est-ce que c'est à la première place ? Est-ce que c'est à la 5e place ? Est-ce que c'est à la 9e place ? Donc le jour où cette vidéo a été partagée par Jimmy Kimmel.
5e ?
Ah. Oh, mais on est trop raccord, Roman.
Hey, vous êtes trop raccord, mais vous avez tous les deux tort.
Oui.
C'est la 9e place. Le site de The Ringer a fait tout un tas de calculs en se basant sur l'Hédonomètre. C'est une base de données en ligne qui donne une appréciation quotidienne de l'humeur de Twitter. Et le 3 juillet, jour du relais de la vidéo par Kimmel, c'est le 9e jour le plus heureux de la décennie 2010. Le jour le plus heureux de la décennie étant le 15 juillet 2015, jour combinant, attention, la légalisation du mariage homosexuel aux États-Unis, Obama qui chante Amazing Grace lors d'une cérémonie pour les victimes d'une fusillade, l'anniversaire d'Ariana Grande et aussi l'annonce de la sortie de la pièce de théâtre Harry Potter. Est-ce que c'était ta journée préférée, Roman?
Sans doute, peut-être. Bah, oui, parce que le 15 juillet, en général.
15 juin.
Ça devait être une bonne journée. Ah, 15 juin, pardon. Oui, bah, ça devait être une bonne journée, je pense.
Bon, alors on termine. Dernière question. Qu'est-ce qui est arrivé à l'auteur de la vidéo en 2020 ? Est-ce qu'il a gagné au loto ? Est-ce qu'il a eu des jumeaux, des double enfants ? Ou est-ce qu'il est mort ?
Je connais la réponse.
Mais alors, moi, je ne connais pas la réponse.
Double enfant, c'est...
Mais ouais, rien que pour la poésie du truc, double enfant. Ils ont été Rainbow 1 et Rainbow 2.
Et en Roman, tu connais, c'est quoi ?
C'est qu'il est mort.
Ouais, il est mort.
Ah, c'est moins drôle.
Il est mort. On a appris dans un article de Brain Magazine que Paul Vasquez est mort à 57 ans après avoir eu des symptômes similaires à ceux du Covid. Il avait fait un test le 5 mai et il est mort le 8 sans avoir ses résultats. Mais avant de mourir, il avait déclaré à ses followers qu'il n'avait pas besoin de conseils ou de pitié et que si les choses tournaient mal, il savait qu'il serait réincarné et qu'il était prêt à kiffer le voyage. Alors, moi, je dis ciao, Polo.
Ciao, l'artiste.
On arrive donc à la fin de cette 3e émission. Un énorme merci à Benjamin Perel de nous avoir accompagnés et nous vous invitons tous à soutenir la presse d'investigation locale telle que Médiacité. Elle en a
merci à vous.
Même si ça va bien. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Benjamin.
Merci à tous et toutes de nous avoir écoutés. On espère que cette heure consacrée à Wikileaks vous aura permis de voir un peu plus clair dans l'histoire de cette plateforme. Avant de conclure, on vous invite à nous suivre sur le compte Instagram de l'émission RetroBuzz Prune tout attaché pour découvrir les coulisses de l'émission, des teasers, des infos et nous donner vos retours. Vous pourrez évidemment retrouver cette émission en podcast très très bientôt sur le tout nouveau site de Prune, prune.net. On va vous laisser avec la playlist de Prune 92 FM et on vous donne rendez-vous le mois prochain. Allez, à bientôt et prenez soin de vous. Salut !